affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être fidèles à l'écoute de Canal Académie. Dans notre émission de ce jour, il sera question de science. Nous allons en effet tâcher de comprendre les ressorts du mouvement brownien. Si toutefois vous êtes plutôt de sensibilité littéraire, si vous ne conservez pas de bons souvenirs de vos cours de mathématiques suivis au lycée, restez quand même à notre écoute. D'une part, parce que notre émission prendra aussi la forme d'une enquête sur les hommes qui ont mis à jour ce phénomène, et que cette enquête prendra la forme d'une promenade historique qui nous mènera avec pas mal d'allers-retours et de chemins de traverse, de la botanique à la physique, et de la physique aux mathématiques. Car la découverte du mouvement brownien implique toutes ces disciplines, et comme on le verra, elle représente aussi une belle aventure humaine. Enfin, il faut rester en notre compagnie, parce que nous aurons dans ce cheminement un guide d'exception, en la personne de Jean-Pierre Kahn. Or, Jean-Pierre Kahn n'est pas seulement un mathématicien de renom, un chercheur apprécié de ses pairs et un membre illustre de l'Académie des sciences, il est aussi un homme qui a voué sa vie à l'enseignement. Je veux dire par là que notre invité est un pédagogue hors pair qui aura à cœur de ne pas nous semer en route. Parce qu'en véritable humaniste, il a à cœur de partager ses savoirs et ses connaissances. Et c'est pourquoi c'est sans trop d'appréhension que je me permettrai de lui poser des questions de béotien, des questions naïves, parce que je sais qu'elles ne le scandaliseront pas. Jean-Pierre Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être faut-il tout simplement définir brièvement ce que l'on appelle le mouvement brownien. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de deux choses assez différentes. Il s'agit du mouvement désordonné, irrégulier, incroyablement bizarre, de particules en suspension dans un liquide. L'observation avait été faite au XVIIIe siècle au microscope avec des particules issues du pollen des plantes. Et ces expériences ont été reprises par Robert Brown. Et j'en dirai un mot.
Robert Brown, c'est un botaniste.
Robert Brown était un grand botaniste écossais du début du XIXe siècle. Et, entre autres choses, il a regardé ce mouvement des particules parce que c'était des particules organiques. Est-ce que j'entame sur Robert Brown ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on viendra à une autre conception du mouvement brownien, qui est la conception actuelle, et qui a des rapports, naturellement, avec le mouvement des particules en suspension dans un liquide, mais qui ne se réduit pas.
Mais au départ, lorsque Robert Brown voit ces particules dans un liquide, ce qui l'intéresse, j'imagine, c'est qu'il pense probablement découvrir là une sorte de principe vital, puisque, si je comprends bien, il s'agit de semences, de fleurs, c'est ça ?
Mais il s'agit de particules issues du pollen des plantes. Donc, l'hypothèse courante au XVIIIe siècle, c'était que le mouvement qui s'observait, qui était un mouvement perpétuel, il fallait bien qu'il y ait une énergie derrière. Cette énergie devait être l'énergie vitale contenue dans ces particules organiques. Robert Brown a fait des expériences, mais le titre de son article de 1928, c'est sur le mouvement de particules organiques et de particules inorganiques en suspension dans un liquide. Parce qu'il a eu l'audace d'essayer avec des particules issues de la suie ou issues de roches, et il a observé le même phénomène.
Donc, dès Robert Brown, on quitte déjà un petit peu le domaine de la botanique.
Mais l'apport de Robert Brown, réellement, ça a été de faire quitter le domaine de la botanique. C'est assez curieux, n'est-ce pas ? C'est le botaniste qui a fait quitter le domaine de la botanique. Et c'est devenu, à ce moment-là, un problème posé à la physique.
Et les physiciens, bien sûr, s'en sont emparés.
Oui, mais les physiciens, au cours du XIXe siècle, beaucoup d'entre eux ont pensé que ça pouvait être le choc des molécules sur des particules qui entraîne ce mouvement irrégulier des particules. Seulement, la théorie atomique était très contestée. Donc, l'existence des molécules n'était pas à l'ordre du jour. C'était une vision, mais ça n'était pas une théorie. Ça a commencé à être étudié sérieusement à la fin du XIXe siècle. Et le nom de Gouy, je ne le connais pas autrement, mais c'est un physicien qui a mené de bonnes études pour montrer comment le mouvement dépendait de la taille des particules, de la nature du liquide, de la température. Donc il a accumulé des observations, mais pas encore de théorie.
Alors pour en venir à la théorie, quand s'élabore-t-elle et par qui est-elle élaborée ?
Bien, le nom qui s'impose, c'est celui d'Einstein. Il faudra le doubler ensuite. Il faudra parler de Smoluchowski, il faudra parler de Paul Langevin, il faudra parler de Jean Perrin. Mais enfin, Einstein, en 1905, publie dans les Annales de Physique ses articles retentissants. L'article sur la relativité, l'article sur le mouvement brownien et l'article sur l'effet photoélectrique.
Alors cet article sur le mouvement brownien, quel est son apport par rapport à l'état des connaissances à l'époque ?
C'est intéressant. Le premier article sur le mouvement brownien d'Einstein, c'est une expérience de pensée. Il veut voir si la thermodynamique est élaborée par Boltzmann, c'est-à-dire rendre compte de la température, de la chaleur, du mouvement de la chaleur, par le mouvement des molécules de gaz. Si ça valait aussi pour les liquides. Encore une fois, on était dans une période où la théorie atomique était loin d'être admise. Mais Einstein fait cette hypothèse et il dit, eh bien, s'il y a des particules en mouvement, des molécules en mouvement dans un liquide, on doit pouvoir déceler leur mouvement, non pas de façon directe. Hein, elles sont invisibles et leur mouvement, on ne peut pas le tracer. Mais elles doivent pouvoir se repérer par l'impact de leur mouvement sur des particules beaucoup plus grosses qu'elles, néanmoins assez petites, pour que leur mouvement permette de déceler effectivement que ce mouvement résulte du choc des molécules.
Un petit peu comme une onde.
Si vous voulez, ou bien imaginez que vous ayez des petites balles de fusil qui attaquent de tous les côtés un gros ballon de cuir. Le ballon va se déplacer, vous voyez, très lentement par rapport aux petites balles qu'il va recevoir. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va se produire dans le fluide. Et donc, Einstein dit à ce moment-là quel doit être le mouvement des particules. Il donne une équation pour ça, très paradoxale, extrêmement paradoxale, parce qu'il apparaît le carré des déplacements comme proportionnel au temps écoulé, alors que dans tous les mouvements qu'on connaît jusque-là, c'est plutôt le déplacement qui est proportionnel au temps écoulé. Mais là, c'est le carré du déplacement. Bizarre. Hein ? Mais il dit, à la fin de son article, ce serait bien intéressant de conclure. Et j'espère que bientôt, il y aura une expérience qui permettra de décider. Le second article, c'est « L'expérience a été faite ». Elle a été étudiée par Robert Brown. Désormais, il suffit d'utiliser l'équation que j'ai écrite pour accéder aux dimensions des molécules.
Effectivement. Parce que si je comprends bien, dans le premier article, il ne fait pas référence à Robert Brown. Il ignore même peut-être son existence. Ou il ne s'est pas intéressé plus que ça. C'est une construction de l'esprit avec une autre finalité qui était celle de la thermodynamique.
C'est ça. Et, alors c'est assez curieux, cet article fondateur.
Ça tient de la sérendipité, finalement. Il y a un côté, il y a de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on élabore une théorie et ensuite on découvre qu'elle a de nouvelles perspectives.
Oui, alors, là encore, l'apport des physiciens, la théorie du mouvement brownien, est paradoxal parce qu'il ignorait le mouvement brownien. Et le mouvement brownien, il l'a découvert comme expérience de pensée. En même temps qu'Einstein, Smoluchowski a fait une théorie qui était plus fondée sur la mécanique statistique et sur les probabilités.
Comme il est moins connu, pouvez-vous nous le présenter brièvement ?
Oui, c'est un Polonais. Il a écrit d'ailleurs le premier article sur ce sujet en français dans le bulletin de l'Académie de Cracovie. Et je crois qu'on ne s'y réfère pas souvent, on se réfère plutôt à ces articles publiés en allemand. C'est un physicien qui a eu une forte influence en probabilité. Mais l'intérêt de l'apport de Smoluchowski est d'avoir obtenu par un autre moyen la même équation qu'Einstein. À un détail près, le facteur numérique n'était pas le même. Or, c'est le facteur numérique qui permettait de tester la validité des formules jusqu'au calcul de la dimension des molécules.
Donc la structure de l'équation est identique, mais l'une des variables change, c'est ça ?
C'est un facteur numérique, je m'en souviens parce que je l'ai lu récemment. C'est l'équation d'Einstein avec dans ce membre un facteur 64 sur 27. Vous voyez ? Donc, 64 sur 27, c'est à peine plus de 2. Bon. Mais pour faire des expériences, pour aboutir à des données numériques sur les dimensions des molécules, il valait mieux quand même décider. Alors, la décision, ça a été Paul Langevin, quelques années après, dans une note au compte-rendu de 1908.
Et une note de compte-rendu à l'Académie des sciences.
À l'Académie des sciences, oui. Et Paul Langevin en profite pour faire une nouvelle théorie physique du mouvement brownien, extrêmement rapide, très brillante. Et bon, c'est l'occasion de ce qu'on a appelé ensuite l'équation de Langevin, qui est le prototype de ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, les équations différentielles stochastiques.
Écoutez, je pense que c'est le moment de préciser ce dont il s'agit également, de faire une incise sur la stochastique.
Oui, stochastique, ça veut dire simplement du hasard. Hein. Et il y a deux termes, l'un c'est aléatoire, c'est emprunté du latin, aléa, le jeu de dés, et puis l'autre c'est stochastique, c'est emprunté du grec. Bon, mais ça veut dire la même chose. Donc, on peut parler de processus stochastique, on dirait tout aussi bien processus aléatoire, on dirait presque autant fonction aléatoire. J'ai une manière de traduire la chose qui est un peu naïve, si vous voulez. Aléatoire, stochastique, vous pourriez dire, c'est fonction du hasard. Et le hasard, vous lui donnez un sens. Alors, le sens à donner au hasard, c'est une nouvelle variable. Et par conséquent, un processus stochastique ou une fonction aléatoire du temps, par exemple, eh bien, vous pouvez considérer simplement que c'est une fonction de deux variables, une fonction du temps et du hasard. Comme fonction du hasard, alors, le temps étant fixé, ça devient ce qu'on appelle en probabilité une variable aléatoire. Comme fonction du hasard, alors là c'est plus intéressant, c'est une fonction, donc il faudrait étudier les réalisations quand on fixe le hasard. Et alors c'est à ce moment-là qu'on obtient des fonctions paradoxales, irrégulières. La théorie des processus stochastiques, elle a une version abstraite, où le processus est considéré comme fonction des deux variables, et puis une version plus délicate, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fixe le hasard, et à ce moment-là, comment ça évolue en fonction du temps. Et bien, comment ça évolue en fonction du temps, c'est un essai de reproduction de ce qu'on voit. Et donc, j'anticipe déjà, vous voyez, sur le mouvement brownien des mathématiciens. Le mouvement brownien des mathématiciens, ça a été une tentative réussie pour obtenir un objet mathématique qui réponde exactement aux équations d'Einstein. Alors, les mathématiciens ne se sont pas beaucoup préoccupés du facteur numérique, mais ils voulaient un processus aléatoire tel que, en moyenne, les carrés des déplacements, ce soit l'intervalle de temps. Ben, ce n'est pas si facile.
Je n'en doute pas.
Et ça a été un gros travail de Norbert Wiener dans les années 1920. Et Norbert Wiener était satisfait de son travail et en même temps, il voyait bien l'aspect fondamental que ça avait.
Norbert Wiener, si je ne me trompe pas, est l'une des personnalités clés dans l'analyse du mouvement brownien, puisqu'il est même à l'origine, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a donné ce nom au mouvement noir, et faisant référence à Brown, non ?
Non, pas tout à fait.
Non. Ah, excusez-moi.
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que, naturellement, il se référait au mouvement brownien, et il se référait plus encore aux descriptions faites par Jean Perrin du mouvement brownien. Parce que les physiciens ne se sont pas arrêtés à Einstein et à Paul Langevin. Un grand nom qu'il faut signaler, c'est celui de Jean Perrin, qui a fait les expériences permettant, à l'aide des équations, de trouver effectivement la dimension des molécules, ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de molécules contenues dans un gaz, 22 litres 4, je crois, de gaz, à température ordinaire. Ce nombre est très important, il est de l'ordre de 10 puissance 23, vous voyez. Il n'est accessible que par expérience et calcul. Et les expériences de Jean Perrin, c'était la mise en évidence du mouvement individuel des particules. Alors, il les décrit de manière très éloquente, follement irrégulière, n'est-ce pas ? Et il dit, on est forcé de penser aux fonctions continues sans dérivée des mathématiciens, que l'on prenait jusque-là pour de simples curiosités mathématiques, mais qui n'en sont pas puisque la nature peut les suggérer. Alors cette phrase de Jean Perrin, Norbert Wiener la cite à plusieurs reprises. Ça a été visiblement un élément d'inspiration pour lui. Il s'agissait de trouver un processus abstrait, donc, mais dont les réalisations, quand on fixe le hasard, étaient des fonctions du temps qui étaient effectivement continues et nulle part dérivables, des trajectoires sans tangente. Bon. Et il a trouvé ça, et il a appelé ça la fonction aléatoire fondamentale. Et il avait raison. On la retrouve maintenant dans tous les domaines, et fonction aléatoire fondamentale était un très bon nom. Mais on lui a préféré pendant un temps le processus de Wiener. Et puis, celui qui a vraiment donné le nom de mouvement brownien, c'est Paul Lévy. Paul Lévy est un grand probabiliste français. Il a fait des apports magnifiques à la théorie des processus stochastiques et en particulier à celle du mouvement brownien. Et justement, l'un de ses livres s'appelle « Processus stochastique et mouvement brownien ». Et ce que Norbert Wiener appelait la fonction aléatoire fondamentale, Paul Lévy l'appelle simplement le mouvement brownien. Comme c'était plus court et que c'était plus parlant, c'est resté. Et donc, l'itinéraire du mouvement brownien, et c'est assez curieux, vous voyez, au XVIIIe siècle, le mot n'existait pas, mais la chose, c'était le mouvement de particules organiques en suspension dans un liquide. Robert Brown intervient, il vide la botanique, ça passe à la physique. Il faut presque un siècle pour aboutir, non pas seulement à des observations de physiciens, mais à une théorie, avec des équations surprenantes et paradoxales, mais qui permettent, si on les valide, de mesurer le nombre d'Avogadro et d'accéder aux dimensions moléculaires. Et puis, ça stimule les mathématiciens, et Norbert Wiener introduit un nouvel objet mathématique que Paul Lévy appelle le mouvement brownien. Et désormais, le mouvement brownien, quand les physiciens en parlent, c'est le mouvement brownien des mathématiciens. Quand les biologistes, quand les financiers en parlent, c'est le mouvement brownien des mathématiciens. Donc, il occupe une place, effectivement, centrale, fondamentale, comme Norbert Wiener l'avait bien vu, mais pas seulement en probabilité, pas seulement dans l'ensemble des mathématiques, ça je pourrais, comme mathématicien, élaborer beaucoup là-dessus, n'est-ce pas ? On le trouve partout en mathématiques, mais on le trouve partout également dans les sciences expérimentales. Il a un rôle fondamental comme processus aléatoire continu.
Oui, ça nous mène à son utilisation. En quoi cette découverte a-t-elle révolutionné d'autres sciences, d'autres métiers, d'autres disciplines? Comment est-il utilisé, cet instrument? C'est un instrument, finalement, c'est un outil d'observation, de description, de modélisation du réel, de la vie physique. Quelle est sa postérité plus pratique?
La postérité plus pratique, je pourrais mieux vous en parler dans 50 ans. Parce que ce qui se fait en ce moment comme travaux théoriques de la part des mathématiciens et de la part des physiciens, sur tout ce que je vous ai raconté de serpents browniens, de soupes browniennes, de cartes browniennes, c'est absolument fascinant. Et ça aura des conséquences. Mais pour le moment, je ne peux pas, malgré le rapport à la physique, considérer qu'il s'agit d'applications du mouvement brownien. La physique stimule de nouvelles recherches. Et en ce qui concerne les applications du mouvement brownien, ben, il faut commencer par dire que je vous ai décrit une histoire du mouvement brownien. C'est une histoire qui pour moi est fascinante, passer de la botanique à la physique aux mathématiques, et voir les hommes s'investir là-dedans. Bon.
Oui, la façon dont les disciplines se fécondent l'une l'autre.
Ah oui, oui, oui. Mais ça n'est qu'une des origines du mouvement brownien. Parce que, vous voyez, on s'est intéressé assez naturellement aux promenades au hasard. Promenades au hasard dans des rues, par exemple, d'une ville qui serait organisée avec un réseau d'artères perpendiculaires entre elles. Hein.
Un peu comme Barcelone.
Ouais. Si vous voulez. Bon. Alors, imaginez un ivrogne dans Barcelone, hein, qui, à chaque coin de rue, hésite et choisit au hasard les quatre directions. Bon, ben ça, c'est une promenade au hasard. Et l'étude des promenades au hasard, ça a été un autre point de départ pour le mouvement brownien, parce que lorsqu'on passe à la limite de ces mouvements qui sont réguliers, si vous voulez, localement. Quand on passe à la limite, on obtient un mouvement très irrégulier, on obtient le mouvement brownien. Ça, c'est l'une des origines. Une autre origine, on en a beaucoup parlé, c'est la thèse de Bachelier en 1900, donc antérieurement à Einstein, qui était une description de l'évolution des cours de la bourse.
Je voudrais que nous le présentiez un petit peu, parce que c'est un personnage atypique, ce Bachelier.
Ah, tout à fait, tout à fait. Bachelier était un mathématicien un peu marginal, Et il est resté marginal presque toute sa vie. Il a passé une thèse. Poincaré était du jury et je pense que Poincaré était derrière. Mais, bon, il était par métier spécialiste des questions d'évolution des cours de la bourse. Et puis, il a eu l'idée que ça ressemblait à quelque chose d'aléatoire. Il a mis ça en équation. Et ces équations se trouvent être les équations du mouvement brownien une fois que la théorie en est faite. On ne peut pas considérer que Bachelier a fait le travail de Norbert Wiener. Non, pas du tout. Bachelier a fait, en ce qui concerne la finance, le travail que Einstein a fait en ce qui concerne la physique. C'est-à-dire, il a donné un modèle possible d'évolution des cours de la bourse. D'ailleurs, ce modèle a été corrigé à plusieurs reprises parce que le mouvement brownien, si peu que vous y réfléchissiez, vous pensez que cette fonction, elle a pas mal de chances d'être négative à certains moments du temps, puisqu'elle a pas mal de chances d'être positive à d'autres moments du temps. Les cours de la bourse ne sont jamais négatifs. Donc, il faut toujours prendre des exponentielles du mouvement brownien tel qu'il est défini par Norbert Wiener. Ça, c'est la première correction. Et puis, dans l'histoire de Bachelier, ce qui est curieux, c'est qu'il n'a eu aucune influence pendant 30 ans. Et il a fallu qu'un grand mathématicien, peut-être le plus grand probabiliste de l'époque, Kolmogorov, fasse un article où il invoquait la théorie de Bachelier pour qu'on s'aperçoive en France que Bachelier était une gloire nationale complètement ignorée. Il n'a été nommé professeur d'université qu'après l'article de Kolmogorov. Et il est mort quelques années après. Alors maintenant, il est redécouvert, on déploie Bachelier, il y a des séminaires Bachelier, des associations Bachelier, etc. C'est très bien. Et puis, bon, vous évoquiez tout à l'heure le signe noir de Taleb. Bon, ben, c'est un petit peu un signe noir, personnage atypique, dont l'influence sur la science ne se manifeste qu'à retardement. À cet égard, on peut dire que c'est l'antipode de Einstein.
Oui, c'est certain. Toutefois, ça nous amène aussi aux critiques qui ont pu être adressées à l'utilisation des mathématiques dans le domaine financier, tout particulièrement ces dernières années. Vous parliez du livre Les signes noirs de Taleb. C'est l'une de ces théories. On se serait laissé griser par la puissance, la capacité à modéliser, à établir des probabilités, alors que la vie serait encore plus aléatoire que le laisse penser, y compris la vie financière, encore plus aléatoire que ne laisse penser les mathématiques aléatoires ou la stochastique. Qu'en pensez-vous ?
La chose assez curieuse, c'est que les mathématiques financières se sont introduites avec la pratique bancaire. Des mathématiques dans cet ordre d'idées existaient déjà, c'était les mathématiques des assurances. Il y avait des spécialistes qui étaient les actuaires et qui, depuis des siècles, savaient faire des calculs, des prévisions, et les compagnies d'assurance étaient fondées sur un appareil mathématique solide. Les banques n'avaient aucune expérience de cela. Et les banques se sont adressées aux mathématiciens qui leur ont fourni les outils les plus élaborés de l'époque. La théorie de Black et Scholes, qui est contestée à juste titre, mais effectivement fondée sur l'utilisation du mouvement brownien, bon, c'était pas du tout ceux dont les assurances avaient la pratique. Et les banques se sont lancées là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça leur donnait des outils rapides pour les contrats. Et ensuite, les produits dérivés. Et il y a eu, en liaison avec la dérégulation, un essor de pratiques bancaires fondées sur des calculs très élaborés. Est-ce que la responsabilité, c'est ceux qui faisaient les calculs ? Ou est-ce que la responsabilité, c'est ceux qui faisaient ou laissaient faire des opérations financières aventureuses ? Vous voyez, en posant la question, je vous dis quelle est ma réponse. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Les mathématiques financières, moi je les ai découvertes par un rapport scientifique au congrès de Zurich de 1994, si je ne me trompe, par Hans Füllner, un Allemand qui était à l'avant-garde des mathématiques, de la partie des probabilités qui était d'application possible à l'évolution de la finance. J'ai gardé un souvenir très vif de cette communication au Congrès international et je regrette beaucoup qu'elle n'ait jamais été rédigée. Mais Hans Füllner est un personnage tout à fait remarquable et qui, à la fois, est extrêmement compétent dans le domaine, très reconnu, et d'autre part, éventuellement, extrêmement critique. Il a été extrêmement critique à l'égard des pratiques bancaires régies par les congrès Bâle I, Bâle II, qui fixaient des règles fondées sur des estimations de probabilité qui lui paraissaient absolument non fondées. Et ça pour Hans Füllner. On a eu le parent de Hans Füllner en France, sous la forme d'un mathématicien que j'ai bien connu et bien aimé. C'est Marc Jor. Et Marc Jor est décédé il y a quelques semaines, à l'âge de 64 ans. Et je ne dirai qu'un mot de Marc Jor, pas de ses travaux. Ses travaux sont, d'un point de vue théorique, absolument fascinants. Il avait une puissance, une vision de ce que les formules pouvaient signifier. Il avait une virtuosité dans ce domaine qui était admirée de tous les côtés. Mais il a vu que les mathématiques financières, il fallait que ce soit une partie de l'enseignement des probabilités dispensée dans les universités, en particulier à l'université Paris 6, à l'université Pierre et Marie Curie. Et il a patronné cela. Et pour moi, une chose remarquable, c'est que cet homme qui patronnait les recherches et les enseignements des mathématiques financières en France, vous voyez ce que ça peut signifier pour ses anciens élèves. Ses anciens élèves le quittaient pour gagner immédiatement 3 fois, 10 fois son salaire.
Peut-être même davantage.
Peut-être même davantage. Et lui, il voyageait beaucoup. Mais en dehors de ses voyages, il vivait entre son bureau à l'université et Saint-Chéron, la petite ville où il habitait. Il avait du train pour aller, du train pour revenir. Il partait tôt le matin, il revenait tard le soir. Et c'était sa vie. Et sa vie, c'était aussi à son bureau de recevoir, de conseiller. Bon, c'était une vie extérieurement modeste et même spartiate. Et intérieurement, c'était une vie extrêmement riche parce qu'il était riche de connaissances et d'imagination.
Et vous qui l'avez connu, quel regard portait-il sur l'application qui était faite de ses travaux ?
Eh bien, À l'Académie même, à l'Académie des sciences, il a organisé deux colloques, un colloque purement scientifique. C'était en 2005. Et puis, un petit colloque qu'il a organisé avec moi et avec les sociétés savantes impliquées. C'était sur les conséquences de l'enseignement des mathématiques financières, moins sur la société en général que sur le système d'enseignement en particulier. Parce qu'on voyait qu'à l'école polytechnique, par exemple, les élèves qui se dirigeaient vers les sciences se dirigeaient d'abord vers les mathématiques, et en mathématiques d'abord sur les probabilités, et finalement d'abord sur les mathématiques financières, pour devenir finalement une exclusivité. Donc ceux qui étaient attirés par la science se dirigeaient vers quelque chose qui allait les détourner de la science, les faire échapper à la recherche. Là, il y avait une première critique à apporter.
Et même échapper à l'industrie, si je comprends bien, puisque ça finit dans l'ingénierie financière, éventuellement l'étranger.
Absolument, absolument. Donc, les conséquences sociales étaient évidemment regrettables, et les conséquences pour le système d'enseignement étaient aussi regrettables. Le souci de Marc Sior était de rétablir la barre, hein, de montrer que les mathématiques et les probabilités en particulier, c'était un domaine qui méritait d'être enseigné à beaucoup, qu'il y avait là-dedans des voies d'avenir dans beaucoup de directions, et le mouvement brownien est un exemple, et qu'il ne fallait pas se limiter à un domaine qui finalement allait faire échapper la plupart de ceux qui se dirigeaient là de toute pratique scientifique.
Aujourd'hui, où en est-on ?
Une légère correction. La crise financière n'a pas fait disparaître les mathématiques financières, bien au contraire. Mais elles ont quand même montré qu'il fallait peut-être penser à autre chose. Et puis,
bon, mon sentiment de prestige, quand même. Non,
non mais bon, mon sentiment personnel, là, c'est que on a utilisé les mathématiques de façon abusive et inquiétante dans la finance, mais aussi dans l'économie. Et que ce qui reste, ce sont des outils mathématiques élaborés à cette occasion et qui peuvent avoir des orientations et des applications avec une autre vue de la finance, avec une autre vue de l'économie. Et bon, mon sentiment personnel comme citoyen, c'est qu'il est temps d'avoir une vue différente de la finance, une vue différente de l'économie. L'argent ne va pas disparaître, les banques ne vont pas disparaître, mais il faut que les banques aient d'autres mobiles, d'autres ressorts que ce qu'elles ont à l'heure actuelle.
Je pense que c'est un sentiment partagé. De quelle façon ces outils pourraient-ils être utilisés alors ? À des fins de régulation
Par exemple, les risques financiers. L'évaluation des risques, c'est à cause de cela que Hans Földer critiquait beaucoup Bâle 1 et Bâle 2, etc. Alors, comment est-ce qu'on évalue des risques ? Ben, on regarde ce qui s'est passé. Et dans le passé, on s'efforce de trouver des modèles qui collent plus ou moins à la réalité. Vous voyez bien qu'il y a là-dedans pas mal d'arbitraire et que fixer un modèle probabiliste pour dire dans l'avenir la probabilité de telle réalisation est de tant, c'est un risque sérieux. Alors le modèle de Hans Földer, c'est de varier les modèles probabilistes. Et il a une manière particulière de les varier qui suggère d'autres méthodes mathématiques, hein, un mélange de probabilités et de ce qu'on appelle l'analyse convexe. C'est de très belles mathématiques, pour le moment, sans application dans la finance.
Et en dehors, vous avez ouvert une porte tout à l'heure, mais ensuite Le cheminement a continué. Vous parliez des applications futures. Je voudrais qu'on termine peut-être de façon plus optimiste et de façon plus prospective en énonçant voilà, la cartographie brownienne et tout un tas d'autres disciplines. Quels sont les espoirs que cela fait naître en termes d'application ?
Bon, en termes d'application, les applications sont déjà là, si vous voulez. Le mouvement brownien est un moyen d'explorer. C'est vrai particulièrement en mathématiques, mais c'est vrai un peu partout. Vous voyez l'exploration en mathématiques comme dans les sciences de la nature et de la société, il faut éviter que ce soit orienté à sens unique. À ce moment-là, vous allez voir un tout petit secteur de la réalité. Prenez un objet géométrique dont vous ignorez la forme. Prenez une surface dont vous ignorez la forme, vous voyez. Vous pouvez essayer d'explorer cette surface en allant dans la direction que vous inspire un fil tendu. Bon, ben, ça vous donnera un résultat. Un autre fil tendu, ça vous donnera un autre résultat. Il vous faudra beaucoup de fils tendus pour arriver à essayer de reconstituer un peu à quoi ressemble la surface. Eh bien, vous lancez le mouvement brownien. Lui, il va un peu partout, hein, de façon très irrégulière. Mais il va vous rendre compte de la surface beaucoup mieux que ne le ferait un mouvement apparemment rectiligne. Prenez un autre exemple simple. Vous avez, en économie, mais un peu partout, à trouver le minimum, par exemple, d'une fonction de plusieurs variables. En économie, il apparaît des fonctions d'un très grand nombre de variables. Et on veut soit maximiser, soit minimiser, en fonction de certaines contraintes qui sont exprimées par des équations ou qui se traduisent par des surfaces ou des généralisations de surfaces dans l'espace. Alors, prenons le modèle le plus simple, si vous voulez. Vous avez une fonction de deux variables, et puis elle peut se représenter par un relief. Vous voyez, vous prenez la valeur de la fonction comme hauteur, et puis vous prenez les deux variables comme représentant le point en projection horizontale. Vous avez un relief.
Donc c'est tridimensionnel, c'est ça ?
Là, oui, c'est un modèle tridimensionnel pour une fonction de deux variables. S'il s'agissait d'une fonction de trois variables, il faudrait un modèle quadridimensionnel. D'accord ? Le modèle tridimensionnel est plus facile à voir. Et, il s'agit, quand vous avez un relief, de trouver par exemple le point le plus bas. Alors, une méthode naturelle, c'est de suivre la ligne de plus grande pente. La ligne de plus grande pente va vous amener, il n'y a pas de doute, sur une cuvette. Mais est-ce que cette cuvette, c'est le point le plus bas ? Si vous vous bornez là, vous ne descendrez pas plus loin. Alors, depuis longtemps, les mathématiciens ont mis au point, plus longtemps, peut-être 20 ans peut-être.
Oui, c'est hier.
Oui. Ils ont mis au point une technique qui porte différents noms et qui est une descente bruitée par le mouvement brownien. Donc, on mélange la descente selon la ligne de plus grande pente et une agitation brownienne. Et ça se traduit par ce qu'on appelle pompeusement des équations différentielles stochastiques. Les équations différentielles stochastiques, on les rencontre à tout bout de champ.
Oui, c'est un outil qui est utilisé dans une multitude de disciplines et qui stimule.
Oui. Et alors,
qui offre un nouveau point de vue.
Oui.
Lorsque je vous écoute, professeur, j'ai l'impression qu'on passe du domaine des pures mathématiques à presque une tournure d'esprit, une manière de voir, une façon d'observer, de s'ouvrir au monde et à la réalité. Est-ce que
oui,
je me trompe ?
Non, je crois que vous avez raison. Et les mathématiciens n'ont plus conscience maintenant qu'ils ne l'avaient quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, les mathématiques se développaient à part, sur le terreau élaboré par les mathématiciens dans le passé. Il y avait tant à voir, à mettre en ordre, à perfectionner. Bon, les mathématiques pouvaient vivre sur elles-mêmes. Et puis maintenant, on voit que les progrès majeurs des mathématiques viennent de stimulations extérieures. Alors, à la fois les mathématiques conservent, entretiennent et perfectionnent les concepts les plus anciens. Les nombres premiers d'Euclide sont toujours nos nombres premiers. Et puis, il y a des créations d'objets nouveaux en mathématiques. Le mouvement brownien, rien ne faisait préfigurer le mouvement brownien des mathématiciens il y a seulement un siècle et demi. Et alors, le mouvement brownien des mathématiciens, c'est aussi une illustration du fait que l'incertitude majeure, ce bouillonnement complètement irrégulier, apparemment on ne peut rien en dire puisque c'est incertain. Eh bien, au contraire, c'est un outil merveilleux, c'est un outil d'étude et c'est un outil de prévision. Donc ça, c'est commun à toute la théorie des probabilités, et Laplace était déjà très clair à ce sujet. Les probabilités, science de l'incertain, est un moyen d'acquérir des certitudes sur le monde extérieur.
Permettent donc de faire cohabiter à la fois la soif de connaissance, le désir de prévisibilité et la modestie.
Oui.
Une forme de modestie.
Oui. Quand Laplace dit « si une intelligence supérieure, connaissant la position et la vitesse de tous les corps qui sont présents dans l'univers, rien ne lui serait inconnu, ni du passé, ni de l'avenir, etc. » Bon, on appelle ça le déterminisme laplacien. Et Laplacien ne publie pas ça en liaison avec la mécanique céleste, il publie ça en introduction à sa théorie des probabilités. Parce qu'il dit « nous ne pouvons pas tout savoir ». Et il nous faut tirer parti à la fois de nos connaissances et de nos incertitudes. Et c'est ça les probabilités.
Eh bien, je pense que ça fait une excellente conclusion, probablement à méditer dans un temps où, trop souvent, probablement, une forme de démesure, d'hubris et de sentiment de démiurge s'empare, si ce n'est de nous individuellement, mais de la société tout entière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette dernière incise.
Tout à fait. Et merci pour la façon dont vous m'avez posé les questions. J'y ai répondu peut-être un peu trop longuement et peut-être un peu à côté. Mais vous voyez, c'est que vous m'avez stimulé.
De façon totalement brownienne, aléatoire et incertaine, mais j'ai fait ce que je pouvais. Merci, professeur.